Le livre des Proverbes dit: l'attente différée rend le cœur malade, mais le désir qui arrive est un arbre de vie. Vous voyez, il est bon d'attendre et ensuite d'apprécier ce que l'on a attendu. Et le Seigneur Jésus l'exprime bien, je trouve, quand il parle des émotions d'une femme au moment de l'accouchement. La femme, quand elle enfante, a de la tristesse parce que son heure est venue, hein, c'est l'angoisse de l'approche de l'accouchement. Mais après qu'elle a donné le jour à l'enfant, il ne lui souvient plus de son angoisse à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un être humain est né dans le monde. Alors, bien sûr, tout le monde ici n'a pas expérimenté cette chose-là, mais c'est vrai qu'on a un peu tous connu des choses comme ça quand on a passé un examen ou quand on s'est fait une belle peur. La joie d'être passé et puis que, ouf, ça y est, c'est fait. Donc, vous voyez, ça donne du relief aux émotions, hein. Si la vie était parfaitement monotone, ça serait peut-être pas très agréable à vivre. Si par exemple, que seriez-vous du bonheur d'être bien au chaud s'il ne faisait jamais froid? Que seriez-vous du plaisir d'un jus d'orange bien frais s'il ne faisait jamais une chaleur torride? Et ça donne du relief aux choses agréables. Bon, vous allez me dire, là, vraiment, on est dans la rhétorique. Je suis en train de retourner la crêpe. Mais quand même, imaginez la platitude d'une vie sans aspérité. Ça serait peut-être à mourir d'ennui. Alors on va se poser ensuite une deuxième question, c'est est-ce que la souffrance a un but? Et le premier but que Dieu poursuit dans la souffrance, c'est ce que nous dit la Bible, c'est de nous avertir, bien souvent. Ça peut être un avertissement pour les individus, on voit ça très bien dans l'histoire du fils prodigue. Ce sont les malheurs qui lui arrivent lorsqu'il est dans un pays éloigné. Il finit par manger des gousses avec des pourceaux, il est dans la misère, et là il réalise qu'il est dans un mauvais chemin, et donc il revient à lui-même, au moment où il est dans le besoin, et il dit: « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi ». Il décide de revenir. Alors souvent c'est comme ça que Dieu réveille les gens qui sont loin de lui pour les ramener à lui. Et je me souviens d'un chrétien belge qui vient quelquefois dans ma région, qui a eu un accident à l'âge de 19 ans, ses deux jambes ont été coupées. Et aujourd'hui, peut-être 40 ou 50 ans après, il dit, en toute sérénité, je dirais: il est bon pour moi que j'ai été affligé afin que j'apprenne tes statuts. Il estime que sa vie aurait été un échec si cet accident n'était pas arrivé. Ça a été une autre vie, mais il est aujourd'hui reconnaissant pour cette vie. Et puis, les malheurs aussi peuvent être un avertissement pour un peuple, et il faut savoir les considérer comme ça. Le Seigneur l'a dit quand il parlait de ces Galiléens, il dit ensuite, en disant qu'ils n'étaient pas plus responsables que les autres: « Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de la même manière. » Ou ces 18 sur qui tomba la tour dans Siloé, ça fait un peu penser au World Trade Center. Et quel tu as, croyez-vous qu'ils fussent plus coupables que tous les hommes qui habitent à Jérusalem? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous pareillement. Jésus dit ça aux Juifs de cette époque, des années à peu près 30, et malheureusement, il semble que la repentance n'a pas été suffisante, puisque
40 ans plus tard, les légions romaines de Titus assiégeront Jérusalem, et la ville sera détruite, il y aura des milliers de victimes. Et donc je crois que c'est comme cela qu'il faut interpréter ces catastrophes qui ont un retentissement national. Dieu veut avertir chacun. Chacun doit comprendre que notre vie tient à un fil et il faut être prêt.
Je crois que ce message est souvent entendu. Les gens réalisent que la vie est précieuse, que la vie est courte, que personne n'est à l'abri. Et c'est important de réaliser ça. Et on remarque aussi que c'est souvent dans les pays où la vie est difficile, ou bien où il y a des grands malheurs, que les gens se tournent plus facilement vers Dieu. Si on compare la vie spirituelle en France et au Congo, par exemple, hein, je peux un peu faire la comparaison, je peux vous dire que Dieu a une place beaucoup plus grande dans un pays comme le Congo qu'en France. Ça ne nous dispense pas de les aider, d'essayer de les en faire s'en sortir. Hein. Il ne s'agit pas de dire, on en fait une stratégie en disant, très bien, laissons-les de la misère pour qu'ils regardent vers Dieu. Non, pas du tout. Mais en tout cas, en attendant, il faut constater cela. Donc première chose, c'était la souffrance peut être un avertissement pour les personnes, mais aussi pour les peuples. Deuxième chose, c'est un challenge. C'est le sens du mot épreuve. Une épreuve, quand on dit, parle de souffrance, on parle d'une épreuve. Une épreuve, c'est comme un combat qu'il faut gagner. Effectivement, la Bible dit que la souffrance est un moyen pour tester la foi du croyant. On a ça aussi au début de l'histoire de Job. Et c'est Satan qui provoque un peu ce défi. Il dit à Dieu, parce que bon, Job est pieux, mais enfin, il est très riche aussi. La vie est facile pour lui. Alors Satan dit, étends la main et touche à tout ce qu'il a, tu verras s'il ne te maudit pas en face. Et l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qu'il a est en ta main, seulement tu n'étendras pas la main sur lui. Dieu permet à Satan de nuire à Job, sauf sur sa vie. Et donc Job va tout perdre, il va perdre ses biens, ses troupeaux, ses bergers, il va perdre même ses enfants, et pour finir il va perdre sa santé. Et alors voici la réponse, on peut dire magnifique, courageuse de Job, qui va donc réussir cette épreuve, qui va réussir ce test. Voilà la phrase qu'il dit à la fin, « L'Éternel a donné et l'Éternel a pris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Voilà un homme qui a accepté la souffrance et qui a montré toute sa foi. Épreuve réussie, test réussi. Et puis aussi, quelquefois, un challenge non pas pour la foi, mais un challenge pour Dieu lui-même. Parce que ça peut être l'occasion de montrer la puissance de Dieu. Parce que parfois, Dieu peut faire des miracles aussi, peut nous sortir de situations désespérées. C'est ce que dit Jésus dans une autre situation, c'est avec cet aveugle. Jésus répondit, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ça peut être l'occasion, et il faut croire que Dieu est toujours puissant pour répondre à nos prières et parfois nous sortir de situations désespérées. Ça, c'est un premier cas. Si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas un miracle, c'est aussi l'occasion de montrer qu'il peut nous donner la force pour traverser les épreuves. C'est ce que dit Paul. Paul avait, semble-t-il, un handicap, peut-être qu'il ne voyait pas très bien, ou qu'il avait, on pense qu'il était borgne, peut-être. Et alors, Paul dit ceci, « Nous avons ce trésor, c'est l'évangile, dans des vases de terre. » Il se compare à un vase de terre. « Afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu. » Voilà, en voyant Paul, un homme qui ne payait pas de mine, mais qui était vraiment convaincu et qui répandait l'évangile, on avait vraiment une idée que Dieu est puissant pour se servir d'un homme comme ça. Voilà. « Nous sommes livrés à la mort pour l'amour de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. » Vous voyez, on voyait la force que Jésus donne dans le combat sans relâche de cet homme, pourtant avec certaines difficultés. Donc un challenge qu'il faut remporter. Et je crois qu'il faut savoir aussi rencontrer les épreuves de cette manière, comme un défi qui nous est donné pour voir comment nous réagissons. Et puis surtout, je pense que c'est le point le plus important. Le troisième but de la souffrance, c'est une école. C'est une manière d'apprendre. Et c'est vrai que souvent, on apprend vite dans l'épreuve. La Bible le dit de très nombreuses fois, c'est dans l'adversité qu'on grandit. Pierre le dit comme ceci, « Étant affligé maintenant pour un peu de temps par diverses épreuves, si cela est nécessaire, afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or qui périt, et qui toutefois est éprouvé par le feu, soit trouvé, tourné à la louange, et à la gloire et à l'honneur dans la révélation de Jésus-Christ. » Voilà, c'est l'épreuve de foi. Un peu comme on affine l'or, c'est-à-dire qu'on met l'or dans le feu pour le rendre plus pur. Et d'ailleurs, j'ai été intéressé par cette image pour comprendre un peu, parce que c'est des choses qu'on voit pas tous les jours, hein, un creuset, un fourneau. Le proverbe 17 nous dit « Le creuset est pour l'argent, le fourneau pour l'or, mais l'Éternel éprouve les cœurs. » Vous voyez, notre cœur est comparé à un morceau d'argent ou un morceau de fer qu'on va rendre plus pur, plus affiné par le feu de l'épreuve. Donc un creuset, vous voyez, c'est ce petit récipient que vous voyez à gauche qui est dans le grand cercle qui lui est le fourneau. Hein, le grand cercle, c'est le fourneau avec des charbons, donc on met le feu. Et ensuite, on pose dans ce feu un récipient qui s'appelle un creuset, dans lequel on fait fondre l'or pour que les impuretés émergent à la surface. Et j'ai entendu dire que lorsque on affine l'or, enfin peut-être qu'aujourd'hui c'est industrialisé, hein, mais quand un forgeron comme ça, ou un affineur, voulait purifier l'or ou l'argent, il le chauffait et il le débarrassait des scories jusqu'à ce que sa propre image se reflète dans le métal. C'est le moment où on voit que le métal est suffisamment affiné. Alors je trouve que c'est intéressant cette image. Dieu aussi nous fait passer par le feu jusqu'à ce qu'en nous regardant, il voit se refléter sa propre image. C'est-à-dire que nous produisons, nous montrons une image qui ressemble à celle de Dieu. Notre vie montre des caractères de Dieu. Alors il y a toute une série de versets qui montrent que nous allons gagner des qualités au travers de la souffrance. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ça commence par la patience, savoir endurer, attendre. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir de rien. Vous voyez, c'est une route vers la perfection. Et c'est le lot de ceux qui sont des fils, des vrais fils, que Dieu aime. Vous endurez des peines comme discipline, mais c'est discipline au sens positif. Hein. C'est l'idée de faire disciple. Dieu agit envers vous comme envers des fils. Et puis je passe directement un peu plus bas, afin que nous participions à sa sainteté. Il nous veut saints comme lui est saint. Aucune discipline pour le présent ne semble être un sujet de joie, mais de tristesse. Mais plus tard, elle rend le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. Voilà, le fruit paisible de la justice, c'est ce que Dieu veut nous voir montrer. On retrouve cette idée aussi dans la parabole des sarments, où nous sommes comparés à des sarments que Dieu va tailler. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, c'est-à-dire il le taille, pour qu'il porte encore plus de fruits. Alors vous voyez, on est loin de l'idée que les plus pécheurs sont les plus souffrants. Dieu poursuit un travail, y compris dans ceux qui portent du fruit pour lui, qui lui sont fidèles, pour les faire progresser. Alors il nous reste maintenant à nous demander, un peu plus pratiquement, quelle attitude doit avoir un chrétien vis-à-vis de la souffrance. Tout d'abord avec sa propre souffrance et ensuite nous verrons comment on peut faire face à la souffrance des autres. Alors il y a plusieurs choses. Premièrement, il faut peut-être se demander quand même s'il s'agirait d'un avertissement de la part de Dieu. Je crois qu'il faut toujours se poser cette question, même s'il ne faut pas en rester à celle-là. Il est dit dans Proverbe, celui qui s'écarte du bien sera sévèrement puni, refuser les avertissements conduit à la mort. Vous voyez, il faut quand même se poser la question. Il me semble que quelquefois, quand il s'agit d'un avertissement, il y a une sorte de relation de cause à effet. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Hein, si Dieu nous punit d'une manière qui ressemble à la manière dont nous le déshonorons, interrogeons-nous, est-ce que ce n'est pas un avertissement? Bon, mais il ne faut pas toujours rester dans cette question, parce que sinon on va se culpabiliser. Parfois inutilement. Deuxième chose, il me semble que les épreuves ne doivent pas être absolument évitées, mais plutôt digérées. C'est l'idée de, qu'on a dans cette expression, faire son deuil. Hein, il faut quand même passer dans l'épreuve. Voilà comment c'est dit dans Ésaïe 50, cette idée de vouloir échapper à l'épreuve par des palliatifs. Hein, on parle de palliatifs. Voici vous tous qui allumez un feu qui vous entourez d'étincelles. Marchez à la lumière de votre feu et des étincelles que vous avez allumées. C'est ici ce que vous aurez de ma main, vous coucherez dans la douleur. J'aime bien voir dans ces étincelles les palliatifs, c'est-à-dire une manière de s'étourdir pour ne pas penser à ce qui fait souffrir. Mais vous le voyez, vous coucherez dans la douleur, c'est-à-dire dès que vous allez vous retrouver tout seul face au problème, il va vous revenir dessus au galop. Donc il ne faut pas essayer d'esquiver la souffrance. Sur cette question des palliatifs, bon, je pense qu'il faut être assez nuancé. Je vais faire une distinction entre plusieurs choses. Il y a des palliatifs qui me paraissent tout à fait recommandables. C'est par exemple les antalgiques. Aujourd'hui, on utilise beaucoup des produits pour soulager la douleur. Je pense que la douleur physique n'a pas à être digérée. La douleur physique, on a besoin d'en être libéré. Hein. Sinon, c'est insoutenable. C'est différent des douleurs psychologiques ou morales. Donc les antalgiques me paraissent tout à fait recommandables. Par contre, d'autres me paraissent discutables, disons. Ça peut être un moyen de franchir un cap, mais il faut faire attention à ne pas s'y installer. Je parle là des anxiolytiques, des somnifères. Et puis des choses un peu moins médicales, mais qui vont jouer quelquefois un peu ce rôle de palliatif, les distractions, s'étourdir pour ne pas penser à ce qui fait souffrir, ou même l'activisme, c'est-à-dire se donner tellement d'activité qu'on n'a plus le temps de penser. Vous voyez, c'est une manière de fuir la souffrance. Alors, je pense que ces choses peuvent aider, mais il ne faut pas qu'elles bloquent le processus de, je dirais, de digestion ou de deuil dans la souffrance. Alors, je vais faire un petit peu de psychologie, je ne suis pas spécialiste, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Voici comment les psychologues définissent le processus de deuil. Bon, quand on dit deuil, ce n'est pas seulement par rapport à un décès, c'est par rapport à toute souffrance, toute épreuve. Il y a quatre phases. La première, c'est la torpeur. C'est-à-dire qu'on est dans un état de choc tel que on ne réalise pas vraiment, on est dans le déni, on se nie la réalité, ce qu'on appelle la sphère de coton. On a l'impression d'être entouré de coton et c'est une réaction de l'organisme protectrice. Ensuite, les choses reviennent à la charge avec une douleur et puis en même temps un combat intérieur, une protestation ou des lamentations, une révolte quelquefois. Les pourquoi ? Et c'est ce qu'on appelle la confrontation. Ensuite, une phase de désorganisation, où la personne est déstabilisée, elle se remet en question profondément, elle est dans le désarroi, dans le désespoir, elle n'a pas de perspective, elle pense que tout est fini pour elle. Et puis vient ensuite une phase de réorganisation, où on accepte, on relativise ce qui s'est passé, on met les choses dans des tiroirs, et puis on recommence à faire des projets, à se projeter dans l'avenir. Vous voyez, ces quatre phases. Alors, il faut faire attention avec les palliatifs, parce qu'ils peuvent bloquer, on dit qu'ils peuvent bloquer les personnes, c'est-à-dire empêcher le passage vers la confrontation ou vers la réorganisation qui demande beaucoup d'énergie et bloquer les gens dans une attitude de torpeur ou de désorganisation. Vous avez des gens qui, des années après une épreuve, se la nient toujours et sont incapables de l'affronter. Ou alors des personnes qui sont complètement désorganisées, qui n'arrivent plus à reconstruire. Alors quelquefois les palliatifs peuvent les maintenir dans cette situation. Bon, là je touche un peu à des domaines des psychologues ou des psychiatres, mais je pense que c'est important de voir les limites des palliatifs. Hein, ça peut aider, mais attention à ne pas leur faire trop appel à eux. Il faut arriver aux dernières phases du processus. Voilà, et puis il y a bien sûr des palliatifs qui me paraissent tout à fait à éviter, bien sûr, pour la simple et bonne raison qu'ils sont destructeurs, à savoir la drogue, l'alcool, et puis bien sûr, le plus destructeur, le suicide. Donc, ceci aussi, ce sont des palliatifs, des manières de fuir la réalité, mais qui sont vraiment destructeurs, donc à proscrire. Voilà, c'était une petite parenthèse sur les palliatifs. Il faut digérer l'épreuve, il faut que le processus avance. Là, je l'ai présenté d'une manière très schématique, les étapes ne sont pas toujours aussi simples, mais il faut arriver au processus de reconstruction. Donc, il faut assumer de traverser ces étapes. Alors, troisième chose, face à notre propre souffrance, il faut saisir l'occasion d'apprendre. Ne pas être dans une attitude de révolte vis-à-vis de Dieu, mais dire, voilà, je vais essayer d'apprendre et puis tout ira bien. Que ton cœur n'envie pas les méchants. On pourrait être dans une situation où on se dit, mais je souffre plus que des non-chrétiens, c'est quand même injuste, on ressasse un sentiment d'injustice. Sois tout le jour dans la crainte de l'Éternel. Il faut arriver à de nobles sentiments devant Dieu, de respect de ce que Dieu permet. Et alors, voilà, certainement il y a une fin. Ton attente ne sera pas réduite à néant. Dieu a quelque chose pour nous quand même dans le futur. Ainsi, connais pour ton âme la sagesse. Vous voyez encore un même verset qui nous encourage. Apprends la sagesse, profites-en pour apprendre la sagesse. Et si tu l'as trouvée, il y a un avenir. Et ton attente ne sera point réduite à néant. Voilà. Être dans une attitude docile, on peut dire, entre les mains de Dieu, en se disant que le futur lui appartient. Alors il y a aussi la question de notre manière de réagir vis-à-vis de la souffrance des autres. Je crois que dans ce cas, il y a surtout des erreurs à éviter, peut-être. Que faut-il éviter? Bon, déjà se contenter d'état d'âme, c'est-à-dire on voit la souffrance des autres et on se révolte contre Dieu, point final. Je trouve ça vraiment inconséquent. Hein, c'est un peu facile d'accuser Dieu, il faut passer un petit peu à une autre étape et essayer d'aider les personnes. Alors les erreurs à éviter, accuser à la légère, c'est-à-dire, ouh, celui-là, qu'est-ce qui lui arrive? C'est sûrement que Dieu le punit. Alors ça, les amis de Job, dans les 30 premiers chapitres se sont appliqués à le mettre en pratique. Hein, ils l'ont accusé. Par exemple, ils lui disent, au chapitre 22, « Crois-tu qu'il te corrige et te fait un procès parce que tu respectes son autorité? C'est plutôt pour punir tes innombrables torts et les fautes que tu ne cesses de commettre. » Pourtant, c'était injuste, hein, Job. Mais enfin, ils l'ont vu tellement souffrir qu'ils ont dit, « C'est pas possible, Dieu le punit. » Alors, gardons-nous de ce genre de réaction vis-à-vis d'une personne qui souffre. Autre chose, se contenter de paroles stéréotypées. Bon, je sais que c'est bien pratique dans un enterrement de dire, quand on ne connaît pas trop les personnes, on a 10 secondes pour leur dire quelque chose, on dit mes condoléances. Voilà, c'est pratique, mais si on est plus proche, je crois qu'il ne faut pas se limiter à ce genre de choses stéréotypées. Il y a un verset qui dit dans les proverbes, tel le vinaigre sur le nitre, c'est-à-dire ça fait une effervescence, hein, une irritation. Et celui qui chante des chansons a un cœur affugé. Vous savez, dire des paroles rituelles, vides de sens, qui ne prennent pas en compte la réalité actuelle de la personne, parce qu'on ne sait pas quoi dire, blablabla, blablabla, les paroles convenables. Voilà, ça ne sert à rien. Quatrième chose à éviter aussi, surestimer sa propre expérience de l'épreuve. Vous avez des personnes qui arrivent, « Ah, mon pauvre ami, moi j'ai connu ça, si tu savais, tout ce que tu vis, je l'ai vécu en 100 fois plus grave. » Non. Même si on a l'impression quelquefois d'avoir vécu des choses similaires, Proverbe 14 nous dit « Le cœur connaît sa propre amertume et un étranger ne se mêle pas à sa joie. » C'est toujours difficile d'entrer totalement dans la souffrance ou la joie des autres. Parce que, ça je m'en aperçois avec un petit peu l'expérience, parce que je suis plutôt tout jeune, hein, on s'aperçoit que les gens traversent les mêmes épreuves avec une intensité complètement différente. C'est-à-dire que certaines personnes sont très sensibles à certaines épreuves, et d'autres ça ne les touche pas du tout, et d'autres sont plus sensibles à d'autres types d'épreuves. On est très surpris. Donc c'est toujours difficile de dire, moi j'ai connu ça, je sais, je vais te conseiller. C'est toujours difficile de bien connaître l'intensité de l'épreuve de l'autre, parce qu'on n'est pas sensible aux mêmes choses. Alors on peut se tromper gravement. Donc il faut faire attention, il ne faut pas se surestimer. C'est bien de pouvoir sympathiser, mais il ne faut pas se surestimer. Alors, après avoir ce qu'il faut éviter, on va se demander, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, quand on le peut, évidemment, il faut diminuer la souffrance des autres. Et un verset nous dit, dans 1 Jean 3, « Si quelqu'un ayant largement de quoi vivre, voit son frère dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu ?» Voilà. Quand on aime, on ne se préoccupe pas de se poser trop de questions, on se dit comment aider. Voilà, c'est ça la préoccupation. Et puis, quand on ne peut rien, quand on ne peut vraiment pas aider, c'est-à-dire face à des choses irréparables, face à un décès, face à un échec qui n'est pas réparable, comment aider? Alors, je trouve que l'attitude des amis de Job est intéressante au début, parce qu'après ils ont voulu lui faire la morale, donc ils se sont un peu trompés, mais tout au début je trouve que c'est assez beau, assez exemplaire. Donc Job est dans une détresse totale, il a tout perdu, et voilà ce que vont faire ses amis. Ils levèrent les yeux de loin et ils ne le reconnurent pas. Et ils élevèrent leur voix et pleurèrent. Et ils déchirèrent chacun sa robe et répandirent de la poussière sur leur tête en la jetant vers les cieux. Et ils s'assirent avec lui, à terre, 7 jours et 7 nuits. Et nul ne lui dit une parole, car ils voyaient que sa douleur était très grande. Voyez, ils ne disent rien, mais ils sont là. Ils sont là avec lui, ils partagent sa souffrance, ils sont à côté de lui sans rien dire. Voilà. Je trouve c'est beau, c'est la sympathie qui n'est pas faite de convenance, mais qui est vraiment, ils sont à côté de lui, ils sont là, être présent. Et c'est ce que nous dit Romains 12, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et c'est exactement l'attitude que Jésus a eue au tombeau de Lazare, en voyant Marthe et Marie qui pleuraient. C'est le verset le plus court de la Bible d'ailleurs, Jésus pleura. Voilà, comment Jésus a sympathisé à la souffrance de celle qui était en deuil. Il a pleuré avec elle, tout simplement. Alors j'en arrive à ma conclusion. Bien sûr, c'est difficile de donner un conseil en quelques mots face à la souffrance. Il me semble qu'il y a quand même deux mots que vous allez peut-être retenir dans ce que j'ai dit. Première chose, c'est d'accepter. La souffrance ne doit pas nous amener à douter de Dieu. Il faut savoir l'accepter, je dirais, subjectivement. C'est-à-dire honorer le Créateur qui est souverain et aussi se montrer un écolier docile devant le Maître. Il faut aussi ne pas oublier que Dieu ne nous donne pas que des souffrances. Il faut savoir aussi se souvenir qu'il nous donne plein de bonnes choses. Vous voyez, un Créateur qui nous a donné tant de belles et de bonnes choses, n'est-il pas habité par la tendresse? Bien sûr, il permet la souffrance, mais il y a aussi beaucoup de tendresse dans son cœur. Donc, premier mot, accepter. Deuxième mot, face à la souffrance des autres, ce qu'il faut retenir, c'est aider. La souffrance ne doit pas nous enfermer dans des considérations philosophiques, mais plutôt être un déclencheur de l'amour. De l'amour que Dieu a placé en nous, il doit se déclencher cet amour et nous amener à aider les autres, dès que nous le pouvons. Je termine sur cette phrase de Albert Schweitzer. Celui à qui la souffrance est épargnée doit se sentir appelé à soulager celle des autres.